Vous présentons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir François Hazard qui nous parle du livre d'Esther qui vient de paraître chez Lior Édition. Bonsoir François.
Bonsoir Sandrine.
Alors on rappelle que vous dirigez Lior Édition qui édite des livres et de la musique qui préservent l'héritage judéo-espagnol. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de vous présenter dans cette émission? Parce qu'on aime vous inviter, on est toujours sûr que l'ouvrage ou l'album que vous allez nous présenter a été sélectionné avec soin. Et encore une fois, aujourd'hui, nous ne sommes pas déçus. Parce que votre actualité, c'est la publication du livre d'Esther d'après la Megillah de Salamanque du 15e siècle. Il faut imaginer un coffret de grand format avec deux albums bilingues, une édition en français et l'autre en ladino, le tout richement illustré. Alors de quoi parle le livre d'Esther? Eh bien c'est tout simplement la mise en scène d'une version du livre d'Esther, la Megillat Esther, que l'on écoute en hébreu dans toutes les synagogues du monde le jour de Pourim. Cette version, c'est celle de Salamanque en Espagne, composée au 15e siècle. Elle est l'œuvre d'un nouveau chrétien, autrement dit un maran, même si le terme est décrié, vous nous dans un instant, si on peut dire maran, et le récit reproduit fidèlement le récit en ladino que lisaient les juifs séfarades au Moyen-Âge le jour de Pourim, la fête des sœurs. La traduction française est signée par Julia Chardavoine. Les illustrations qui apportent beaucoup à l'objet sont de Maeva Rubli. Il y a aussi les notes et la postface qui sont du professeur Carlos Sanz de la Mazza de l'Université de Madrid. Et il faut dire aussi que l'ouvrage se termine par la reproduction des premières pages du document originel, c'est-à-dire du livre d'Esther en ladino, conservé à l'université de Salamanque. Bref, un ouvrage complet, un ouvrage magnifique, à la fois patrimonial et religieux, et je dirais même peut-être aussi décoratif. Alors, François, expliquez-nous comment vous est venue cette idée, qui semble évidente quand on voit l'objet, quand on voit ce magnifique coffret, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette aventure éditoriale?
Alors, le point de départ, c'est comme souvent dans nos projets, un coup de cœur. Un coup de cœur pour les illustrations de Maeva Rubli, donc, qui est une jeune illustratrice suisse qui faisait ses études quand je l'ai rencontrée à l'école des Beaux-Arts de Lucerne et qui a fait un stage de 6 mois à l'école Schenkar de Tel Aviv. Et lors de ce stage, elle a commencé à illustrer le livre d'Esther, qui pour elle avait une grande signification puisque sa grand-mère, qui était de tradition protestante, lui avait raconté dans son enfance l'histoire d'Esther, une histoire évidemment qui est liée aux persécutions, qu'elle soit juive ou celle qu'ont pu subir les protestants. Et elle s'est complètement identifiée à ce personnage, à cette héroïne, ou même super-héroïne, on pourra y venir plus tard, à travers laquelle elle a découvert sa féminité. Et donc, elle a investi sur ce personnage d'Esther énormément de choses. Et moi, j'ai été vraiment bouleversé, enfin, extrêmement séduit par ces images qu'elle a commencé à me montrer. Elle n'avait illustré qu'un tiers à ce moment-là de la Megillat d'Esther. Et tout de suite, ça s'est passé en fait au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Elle est venue me montrer une première maquette. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion en me disant, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et comme ces illustrations, et comme la vocation de notre maison, c'est de faire du judéo-espagnol, faire mieux connaître cette culture, je suis parti à ce moment-là à la quête, à la recherche de la tradition séfarade des Megillas en ladino, donc des Megillotes en ladino, donc qui existaient, on pense à partir du 13e, 14e siècle, mais en tout cas, les celles qu'on a, les plus anciennes viennent du 15e siècle.
Alors, il faut insister, les illustrations ne sont pas un faire-valoir du texte. Les deux sont équivalents. Il y a même des pages entières de dessins. C'était un choix évident pour vous de mettre en avant ces dessins.
Alors, il faut préciser qu'on s'inscrit dans une tradition, puisque dans le texte d'Esther, il n'y a pas de mention du nom de Dieu, ce qui a permis, comme d'ailleurs pour les Haggadotes, d'illustrer très largement les rouleaux d'Esther. Donc on s'inscrit vraiment dans une tradition qui était tout à fait acceptée par les rabbins. C'est décisif en fait ces illustrations parce que ça montre en fait une vision d'Esther. Il y a dans ce personnage en fait d'Esther la puissance féminine. Alors, pas tout à fait au début. Au début, on est en fait dans le livre du roi Achvéroch, Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté. Este es el libro del rey Ahasuerus.
Alors c'est la question que je voulais vous poser, puisque quand on voit à la fin le livret original, eh bien oui, c'est le titre en ladino, mais en avant davantage le roi Ahasuerus que la reine Esther. Pourquoi ce choix? Comment vous l'expliquez?
Alors, je l'explique parce qu'au départ, c'est un livre d'homme au départ, puisque effectivement, il y a le pouvoir du roi qui répudie son épouse, la reine Vashti. Il y a le pouvoir de Mardoché. On dit que finalement, Esther lui obéit au doigt et à l'œil. Hein, c'est son cousin, mais il l'élève comme s'il était son père. Et Esther donc se trouve finalement sous une tutelle. Alors, elle fait un espèce de concours de Miss où elle est choisie. Alors, on ne sait pas effectivement si c'est un conte de fées qu'elle vit puisqu'elle devient la reine, ou bien quelque chose de beaucoup plus sombre où finalement elle subit l'histoire. Et il va y avoir un retournement. Et c'est là où finalement je voulais en venir. Il y a un retournement dans l'histoire au moment où elle se trouve face à la réalité de son sort de juive en diaspora, c'est-à-dire le risque de mort que lui met en avant Mardoché, en la plaçant face à un choix tragique entre s'assimiler complètement et cacher jusqu'au bout son identité, ou bien l'assumer en cherchant à sauver son peuple. Et c'est finalement le choix qu'elle va faire, mais pour le faire, elle va faire une opération finalement un peu magique de purification. Elle va jeûner pendant 3 jours et elle va engager son peuple aussi à jeûner avec elle. Et c'est là où finalement les choses se retournent et c'est elle qui prend le contrôle de la narration. À ce moment-là, on est suspendu, le roi est suspendu à ses lèvres en fait. On attend qu'est-ce que va demander Esther et elle fait durer le suspense. Et c'est là où il y a une transformation. Elle quitte finalement la sphère de ses parents, la sphère de son oncle. C'est elle qui prend le contrôle. Et finalement, c'est un peu, pour moi, un récit adolescent. C'est-à-dire une histoire, par exemple, comme celle de Carrie. Moi, j'ai pensé à Carrie parce qu'il y a une image qui fait penser à Carrie. Où finalement, elle va prendre le contrôle de l'histoire et elle va devenir la souveraine, en fait. Il y a une image très erratique, en fait, où on la voit descendre un escalier derrière un paysage un peu de ruine parce que il faut rappeler la dimension tragique aussi de cette histoire, la violence aussi qui est à l'œuvre dans l'histoire. Elle prend le contrôle, elle devient souveraine de son destin, souveraine du royaume, souveraine du roi, hein, elle n'est plus l'épouse du roi, la reine de son roi, mais elle devient la Esther au sens le plus fort du terme, cette super-héroïne qui va devenir une histoire universelle reprise dans beaucoup de cultures.
Alors, et les rôles sont inversés, hein, c'est pour ça qu'on appelle aussi Purim la fête des sorts. Alors, il y a cette vision magnifique que vous nous expliquez, et cette vision aussi que j'ai, je pense beaucoup de femmes ont un récit magnifique pour les femmes. Vashti déjà au début qui refuse de se présenter au roi, c'est quand même un acte courageux. Esther qui a ce rôle d'héroïne dont vous parlez. Alors, selon certains commentateurs, mais on ne va pas rentrer dans ces sujets-là, elle aurait pu être donc la nièce de Mordechai, de Mardoché, mais aussi son épouse. Et d'être finalement appelée auprès du roi, c'est aussi une libération en ce sens. Enfin bon, en tout cas, un récit de femme. Et finalement, est-ce que ce texte en ladino n'est pas aussi un moyen pour les femmes au Moyen-Âge, à l'époque, eh bien, d'avoir accès à ce texte liturgique qui était plutôt réservé aux hommes, d'autant plus qu'elles avaient très peu l'accès à l'araméen ou à la langue hébraïque.
Oui, tout à fait. Alors, on dit effectivement que ces versions en langue romane, hein, donc, qui calquent l'hébreu en même temps, donc qui ont une dimension sacrée et très poétique, étaient réservées aux femmes et aux enfants, à ceux qui ne maîtrisaient pas l'hébreu. Je pense qu'il y avait aussi un certain nombre d'hommes, même s'ils ne l'avouaient pas, qui ne maîtrisaient pas l'hébreu. Et il y avait régulièrement, effectivement, des rabbins piétistes qui contestaient ces versions. Mais comme ça se répète périodiquement, ces contestations, on sait que ça perdurait. Et on continuait à réciter ce texte aussi en ladino. Et ça s'est prolongé même au-delà de l'histoire juive en Espagne, puisque les maranes se sont emparés et de cette histoire, qui leur parle beaucoup à cause, justement, de la situation voilée, hein, masquée d'Esther. Et aussi parce que le texte est en ladino, donc était facilement accessible pour eux.
Alors justement, cette version, il est dit dans la postface qu'elle est attribuée à un nouveau chrétien de Salamanque au XVe siècle. Est-ce qu'on connaît sa motivation? Pourquoi est-ce qu'il a choisi de coucher ce récit sur le papier?
Alors, on ne peut que faire des supputations. Il est anonyme, hein, on ne connaît pas exactement l'identité de ce nouveau chrétien. On sait évidemment qu'à partir de 1391, il y a des vagues de persécutions et de conversions forcées qui interviennent dans toute la péninsule ibérique. Donc, il est probablement issu de ces conversions forcées qui ont duré une trentaine d'années. Les communautés juives sont réduites, sont affaiblies. En revanche, il y a un grand essor du mouvement marane, des communautés maranes, au XVe siècle, au milieu du XVe siècle. L'Inquisition n'est pas encore là, il faut le rappeler. Et donc, un certain nombre de ces maranes, de ces nouveaux chrétiens, alors les termes, ils sont interchangeables, il y a crypto-juif aussi. Là, on n'est pas en présence vraiment d'un crypto-juif, puisqu'il revendique quand même son appartenance à la communauté chrétienne. Simplement, il y a des phénomènes d'hybridation, de syncrétisme. Et là, on a quelqu'un qui, en fait, essaie, à l'intérieur du christianisme, de préserver son héritage juif. On le sait comment? On le sait parce qu'en fait, cette Megillah d'Esther, en ladino, elle fait partie d'un ensemble plus vaste de 7 textes qui ont tous un lien avec le judaïsme. Et à l'intérieur de ces textes, quand on les lit, on s'aperçoit en fait qu'il fait l'éloge des Hébreux, de la tradition hébraïque, continuée à travers le christianisme.
Alors c'est une version qui est assez fidèle finalement à ce qu'on écoute le jour de Pourim, ça va tomber cette année dans quelques jours, c'est une des fêtes les plus appréciées en monde juif, et notamment des enfants, on se déguise, on fait un festin, on échange des cadeaux. Est-ce que pour Lior Édition c'était contribuer à une fête, à un élément spirituel, ou comme vous le disiez tout à l'heure, encore une fois, créer du lien avec un sujet qui finalement peut être universel?
Alors pour moi c'était un objet aussi de transmission. Transmission à travers les siècles. Il se trouve que mon grand-père, lorsque j'ai fait ma bar mitzvah, est venu avec une Megillah d'Esther qu'il avait conservée. C'était l'objet le plus ancien qui était transmis et conservé dans notre famille. Une Megillah d'une partie 17e, une partie 18e. Et il me l'a offert comme objet de transmission, me disant est-ce que je voulais la vendre, puisqu'il l'avait fait expertiser. Évidemment, je lui ai dit non, je veux la garder. Et donc, ça fait partie, je pense, pour beaucoup, ce petit bâton, ce petit rouleau qu'on se transmet dans les familles, un moyen, parmi d'autres, évidemment, de se transmettre l'identité juive comme elle est transmise à travers l'histoire. L'objet transmet cette identité comme l'histoire la transmet également.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie de François Hazard qui nous parle du livre d'Esther qui vient de paraître chez Lior Édition. Alors vous l'avez compris, c'est un grand album, c'est deux grands albums avec une version en français, une version en ladino, des illustrations magnifiques, un texte fidèle à la tradition qu'on peut encore utiliser pour Pourim, et puis un prix, 20 €.
Oui, alors 40 € pour le coffret, voilà, 20 € si on ne veut acheter que l'édition française ou l'édition en ladino. Donc on a essayé de faire effectivement...
Mais c'est très peu cher par rapport à la qualité de l'objet.
Voilà, on a essayé quand même de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc effectivement, avec 40 €, on a un objet luxueux. Je pense que c'est ce que m'a dit l'imprimeur, on ne peut pas faire plus luxueux. Donc effectivement, c'est, je pense, quelque chose qu'on peut s'offrir avec le cœur.
Comment vous arrivez à un tel prix pour un objet qu'on peut laisser dans sa bibliothèque, qu'on peut laisser sur une table basse, qu'on peut offrir, c'est un magnifique cadeau, et c'est 40 €.
Alors je souligne qu'on a eu quand même l'aide de la Fondation Rothschild qui a beaucoup apprécié ce projet, donc je les remercie vraiment très chaleureusement de leur soutien. Voilà, je pense que on anticipe un peu un miracle de Pourim où tout le monde essaierait de, en tout cas année après année, puisque je pense que c'est un livre qui peut s'inscrire dans la durée, se procurer cette version. Donc, tu as souligné effectivement qu'elle est massorétique, donc c'est bien la tradition juive qui était suivie pendant le Moyen-Âge espagnol.
Qui reste très fidèle à ce qu'on entend encore aujourd'hui, ça paraît étonnant.
Absolument, et je souligne aussi la qualité de la traduction de la traductrice Julia Chardavoine, qui est une très grande traductrice, jeune également, hein, c'est aussi une histoire de femme et une histoire de jeune femme en réalité. Julia, qui est normalienne, qui a, est d'abord traductrice du russe, qui ensuite est partie vivre au Mexique par amour pour un jeune Mexicain et qui s'est mise à l'espagnol. Et Julia a traduit un livre absolument formidable qui s'appelle Gabacho, qui est aussi un livre d'une adolescente qui a écrit sur un jeune immigré mexicain qui part à la conquête des États-Unis, et c'est écrit en Spanglish. Donc là aussi, une langue hybride. Alors là, ce n'est pas un intermédiaire entre l'hébreu et l'espagnol, mais c'est entre l'anglais et l'espagnol. Une langue de migrant, une langue d'un adolescent qui aussi va surmonter et prendre en main son destin. Et cette, voilà, ce défi de traduction qu'elle a admirablement réussi, remporté, qui lui a valu d'ailleurs le Grand Prix de la traduction de la ville d'Arles, je me suis dit, en le découvrant, qu'elle avait tout pour réussir une traduction en ladino.
Alors c'est vraiment le triomphe des femmes, et dans le contenu, et dans le contenant, hein, et dans la réalisation. Comment vous appréhendez cet ouvrage ? Est-ce que, moi quand je l'ai découvert, j'ai vu comme un petit trésor, par rapport aux autres livres que vous éditez, ou vos objets, est-ce que vous portez un regard particulier sur ce magnifique coffret ?
Alors, c'est un livre un peu de traversée, je dirais, au long cours, puisqu'on a mis plus de 2 ans pour le faire. Donc, c'était un peu un rêve. Et on a pris beaucoup de plaisir, je dois dire. Il y a des amitiés qui sont nées aussi à travers ce livre. Donc, j'espère que ça se sentira. Et c'est un livre qui m'a accompagné. C'est-à-dire, quand je l'ai reçu, ben, je suis resté quelques jours avec, dans mon lit, à relire les passages en particulier en ladino, parce qu'ils sont extrêmement poétiques. Hein. Il faut parler aussi de cette fusion entre l'espagnol ancien, le castillan ancien, et l'hébreu qui imprègne en particulier la syntaxe. C'est très joli, il y a des très belles formules poétiques qui l'habitent. Donc voilà, je l'ai relu, j'ai vécu avec, j'ai dormi avec, et j'ai rêvé de ce livre pendant très longtemps.
Et comment il est accueilli pour l'instant ? Est-ce que vous avez déjà des premiers retours ?
Oui, on a beaucoup de retours très, très positifs, hein, très enthousiastes. Voilà, je ne veux pas trop anticiper sur un succès. On l'espère, évidemment, et on espère surtout qu'il s'inscrira dans la durée.
On peut le trouver facilement ?
Oui, bien sûr. Alors, il est évidemment présent au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à la librairie, à la librairie du Temple. Et vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Il est évidemment diffusé et distribué.
D'accord. Est-ce qu'il y a un nouveau sujet sur lequel vous travaillez ? Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui peuvent nous faire rêver ?
Oui, alors effectivement, je dis toujours, pour un éditeur, il faut dire à chaque fois... Il faut être dans la position de se dire, vous n'avez encore rien vu. Et effectivement, il faut toujours avoir un projet encore plus ambitieux. Donc, actuellement, je travaille sur des chroniques judéo-espagnoles, la chronique de la famille Arié de Samokov en Bulgarie. Donc, je dis souvent que c'est les Rougon-Macquart judéo-espagnols, puisque c'est l'ambition d'écrire l'histoire d'une famille sur 150 ans, 5 générations, toutes les branches de la famille, du plus petit colporteur de village jusqu'au grand banquier commensaux des Camondo et des Carmona à Istanbul, en passant par les grands pédagogues de l'Alliance israélite universelle, les grands pionniers du sionisme. Et cette histoire sur 2200 pages, donc qui représente quand même un monument de la littérature judéo-espagnole, qui prendra évidemment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le porter, le mener à bien. Voilà, c'est mon...
C'est plusieurs tomes, alors.
C'est plusieurs tomes. C'est aussi une démonstration qu'il existe une grande littérature judéo-espagnole. Il y a 2 rédacteurs, en fait, de ce texte, hein, qui ont mis 30 ans à l'établir. C'est, je pense, un objet assez unique qui n'existe pas même dans la littérature yiddish, puisque c'est un monument avec aussi une portée ethnographique, mais aussi... quelque chose de l'ordre vraiment de la littérature, avec des textes qu'on a envie de traduire pour les faire partager au public.
Comment se porte le judéo-espagnol et l'intérêt pour les langues judéo-espagnoles ?
Alors, tu as tout à fait raison, il faut bien dire les langues judéo-espagnoles, parce qu'effectivement, non seulement il y a des variations dialectales dans le judéo-espagnol d'Orient, hein, qui était parlé dans l'Empire ottoman, on ne parlait pas le même judéo-espagnol justement à Samokov ou à Izmir ou à Istanbul, mais il y a aussi le judéo-espagnol du nord du Maroc, qui s'appelle la Khaketia, et qui a aussi ses lettres de noblesse. Donc, le judéo-espagnol aujourd'hui fait l'objet d'une renaissance, en particulier dans le monde universitaire. On a été un peu des pionniers en France, mais aujourd'hui, on voit toute une forme de floraison aux États-Unis, en Israël, à Istanbul aussi, un renouveau. Peut-être c'est du post-vernaculaire, comme on dit, c'est-à-dire que la langue n'étant plus parlée dans les familles, dans la rue, aujourd'hui, on a un sentiment de perte, de manque, de nostalgie qui s'exprime à travers une volonté de reconquête de la langue, de cette culture, par des générations auxquelles elle a été très imparfaitement transmise.
Et donc cette Megillah d'Esther est un élément aussi, une pierre posée pour la reconstruction de cette langue. Il y a une question classique, mais néanmoins difficile, pour terminer cette émission. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer cet ouvrage, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que c'est un ouvrage qui a beaucoup de facettes. En fait, vous allez découvrir un texte, d'abord vous allez rentrer dedans par les illustrations, et ces illustrations, il faut les regarder à deux fois, parce qu'elles portent, comme souvent les contes, comme souvent des textes un peu complexes, on peut les lire de plusieurs façons différentes. Donc, vous rentrerez par les illustrations, ensuite vous découvrirez le texte en français, et ensuite vous découvrirez peut-être aussi le texte en ladino. Et à chaque fois que vous allez rentrer par une porte différente, vous allez voir une beauté différente à cette Megillah. Donc c'est quelque chose avec lequel on peut vivre, hein, c'est quelque chose qu'on peut répéter chaque année. Donc chaque année, pour celui qui ne lit pas l'hébreu, finalement vous pourrez aussi vous plonger dans une Megillah qui est peut-être plus accessible, très illustrée, qui peut être partagée aussi à tous les âges de la vie, et en particulier avec des enfants. Ma fille qui a 15 ans, elle a adoré en fait, j'ai rien fait pour la lui faire découvrir, elle s'en est emparée. Donc je pense que c'est effectivement quelque chose qui est transgénérationnel, qui peut se vivre à tous les âges de la vie et de façon, comme l'histoire d'Esther est malheureusement récurrente, c'est une histoire qu'on peut ressortir à plusieurs moments dans sa vie.
Et adapté dans l'actualité. Alors j'aurais beaucoup de compliments à vous faire. Je pense qu'ils ont dû transparaître de cette interview. C'est un objet magnifique. C'est, comme vous le disiez, un récit que l'on peut lire à ses enfants dès le plus jeune âge en leur montrant les images. Je m'y suis essayée et vraiment ça fonctionne. Le texte est très fidèle à la tradition. C'est la tradition. Et en plus, il est écrit avec beaucoup de poésie et en même temps de la simplicité. Et il faut insister aussi sur le fait que même si on ne lit pas le ladino ou le judéo-espagnol, eh bien, cet album peut faire sens chez soi, qu'on soit juif ou pas. Et en plus, qui porte ce récit magnifique qu'on peut adapter sur l'héroïsme des femmes, c'est vraiment un très bel objet, un vrai coup de cœur que je recommande à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup François d'avoir accepté de parler avec nous de votre actualité. Je le répète, c'est donc la parution du livre d'Esther aux éditions Lior Éditions. C'est vraiment le petit bijou à s'offrir et à offrir pour les fêtes de Pourim qui arrivent. Souvent, on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, on est invité au Michté, et bien voilà, on peut venir les mains chargées de ce bel objet qui restera, qui peut rester une vie et qui peut même se transmettre aux enfants, aux petits-enfants, etc. En tout cas, merci infiniment pour ce que vous faites, pour cette sauvegarde du patrimoine juif en général et ladino en particulier, et puis on espère vous revoir bientôt.
Merci beaucoup Sandrine.